Bonjour, nous sommes sur RVR dans l'émission Bout de vie. Je rencontre aujourd'hui Françoise Rey qui vient nous parler de son livre Tarare de la tarentule à la tarandouille, illustré par les photographies de Bernard Schreyer, venu ici même nous présenter dans le premier Bout de vie son polar, Le boiteux de la Croix-Rousse. Le livre de Françoise Rey nous entraîne dans Tarare, une maîtresse de pierre, qui absorbe le mari d'une femme qui, à force d'être délaissée, se découvre un talent de romancière pour passer le temps. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Voilà, donc on va parler un petit peu de vous avant de parler du livre. Donc vous êtes grenobloise, je crois, à l'origine, et vous avez été enseignante dans notre région, au Bois-d'Oin, plus exactement. Alors, quelques mots de plus sur votre bout de vie, un peu votre parcours professionnel.
Alors, mon parcours professionnel, bon, je suis née en Haute-Savoie, mais très vite installée à Grenoble avec mes parents. J'ai fait toute ma scolarité et mes études à Grenoble. J'ai réussi le concours des IPES, puis du CAPES, et j'ai été nommée pour mon premier poste en Vendée. 2 ans en Vendée. C'était très languide et j'étais loin de ma famille, de mes racines, de mes montagnes, et j'ambitionnais de revenir très vite dans ma région. Et on m'a trouvé un poste un peu au pied levé au Bois-d'Oin à la suite d'une erreur d'informatique. Et je suis tombée amoureuse de ce pays, du Bois-d'Oin, des pierres dorées, du Beaujolais, et j'ai décidé que je prendrais ma retraite dans ce collège du Bois-d'Oin.
Et combien d'années d'enseignement?
Alors j'ai enseigné au collège du Bois-d'Oin des années 76 à 99, ce qui fait que j'ai pris une retraite assez prématurée, mais j'y avais droit encore à l'époque. J'avais élevé 3 enfants, plus D'accord, de 15 ans de service, et j'avais presque toutes mes annuités parce que avec ce concours des IPES réussi à l'âge de 19 ans, j'étais entrée dans l'éducation nationale et j'avais commencé à cotiser à cette époque-là. Donc j'étais presque au top de mes cotisations, de mes annuités, voilà. J'avais fait un calcul un petit peu sordide et pourtant Dieu sait que j'aimais mon métier. Je l'aimais beaucoup et je suis partie avec un peu un clou dans le cœur. Mais je me suis dit, c'est comme une histoire d'amour, il faut que ça s'arrête en plein vol. Autrement, ça risque de s'abîmer.
Donc, précisons, collège public du Bois-d'Oin.
Oui, tout à fait.
Donc, vous devez avoir, j'imagine, beaucoup d'anciens élèves qui sont aujourd'hui de grands garçons et de grandes filles.
Oui, ils sont parents eux-mêmes. Voilà, ils viennent toujours très gentiment me saluer. Je ne les reconnais pas toujours du premier coup, mais après quelques mots échangés, tout me revient. Je suis toujours très contente de l'hommage qu'ils me rendent quand ils viennent parler des souvenirs avec moi.
Parfois des plus terribles?
Oui, aussi. Oui.
Voilà, très bien, merci. Donc, un livre en 1989 vous a propulsé dans la notoriété. Est-ce que vous pouvez nous raconter, nous en dire un peu plus de ce fameux livre et...
Oui, alors vous avez déjà un peu évoqué sa genèse en disant qu'il est dû en fait à une certaine forme d'ennui et de bovarisme de ma part. Mais il est dû aussi à une passion adultère que j'ai eue, et je le dis sans honte parce que je pense qu'il faut quand même reconnaître les choses et ça fait plutôt avancer les mentalités que ça n'incite à la débauche. En tant que femme délaissée, mon intérêt amoureux, fantasmatique s'est porté ailleurs qu'au sein de mon mariage et je suis tombée très amoureuse d'un homme dont je désespérais de pouvoir le séduire vraiment à la hauteur de ce qu'il m'inspirait. Et du coup, je lui écris des lettres en m'étant assurée qu'il les lirait. Il n'était pas très intellectuel à lire ce genre de publication. Et puis finalement, il les a lues avec beaucoup d'intérêt, mais il les a toutes rendues. Et un jour, à la faveur d'une scène conjugale terrible, j'ai attiré l'attention de mon mari sur le fait qu'il ne se rendait compte d'absolument rien, jamais. Et pour lui prouver que je n'étais pas fantasmé, mais que j'avais bel et bien une double vie dont il ne voyait rien, je lui ai balancé toutes ces lettres à la figure. Il les a lues. Et la jalousie et la rage lui ont soufflé ce verdict, c'est de la merde, ça ne vaut rien.
Tu
enverrais ça à un éditeur, il te rirait au nez. Et c'est là que j'ai été écrivain, puisque j'ai envoyé ça à un éditeur qui ne m'a pas ri au nez.
Oui, donc c'est une histoire assez intéressante. Donc on peut peut-être dire dans quelle catégorie s'est inscrit le roman quand même.
Tout à fait, comme je voulais séduire ce beau cow-boy, j'avais essayé de caracoler dans un territoire complètement inconnu pour moi, qui était le domaine de l'érotisme, mais de l'érotisme dur. Hein. C'était pas la buette, c'était pas, voilà, c'était vraiment, ça jouxait la pornographie, c'en était souvent, d'ailleurs j'ai pas peur du mot, mais elle était écrite, elle était ciselée. Mmh.
Oui, alors pour terminer sur cette question, effectivement, votre travail vous a propulsé dans la notoriété, vous êtes passé dans de nombreuses émissions, notamment à la télé, c'est comme ça qu'on vous a connu.
Mais j'étais contente parce que j'ai fait toutes les émissions littéraires qui existaient sur toute la période
notamment
de ma création littéraire.
Apostrophe.
Notamment Apostrophe, Extibris, etc. Mm-hmm. J'ai tout fait. Et c'était une espèce de gage de qualité, malgré ce créneau tout à fait particulier.
Tout à fait, une certaine forme de reconnaissance. Voilà, donc comment vous est venue, donc finalement 30 ans après, l'idée du livre Tarare, de la tarentule à la tarandouille, et puis cette collaboration avec Bernard Schreyer?
Alors l'idée n'est pas tout à fait de moi. D'abord, il faut dire qu'au bout d'une quarantaine de livres qui étaient tous sur le thème de la sexualité, de l'amour, l'amour physique, de la chair, c'était certes varié, mais au bout de 40 bouquins, on finit par se lasser. Puis je vieillissais moi-même, et dans ma chair, et dans mes fantasmes. Et j'avais envie d'aborder d'autres rives, et puis de mettre un petit peu un frein à ma création. J'écrivais très vite, je faisais 2 livres par an, c'était même trop. Donc j'écrivais de moins en moins. Et puis j'ai rencontré l'éditeur Jacques Brancia, de la région beaujolaise, à la ville Franche-sur-Saône.
Que nous avons reçu ici, d'ailleurs, pour un de ses ouvrages.
Voilà, donc c'est quelqu'un de très gentil, de très agréable. Et là, il a accepté de publier dans un premier temps un livre qui dormait dans mes tiroirs qui s'appelle Sensuel Beaujolais, qui n'avait rien à voir avec le créneau érotique aussi. C'était des commentaires de photos qu'avait prises une copine, mais de très belles photos de paysages beaujolais. Donc il a publié ce livre et nous sommes restés ainsi en relation à la fois professionnelle et amicale. Et un jour il me dit, est-ce que tu voudrais pas me faire un livre sur Tarare? J'ai dit, quelle idée, pourquoi? Il dit, je fais des livres un peu sur toutes les petites villes des alentours. Et là, figure-toi que je suis en panne parce qu'on avait un projet, le livre devait paraître avec des photos de Bernard Schreyer. Donc il me montre les photos, il me dit, mais par contre la personne qui devait assumer le texte. Documentaire, elle veut plus faire le truc. Et je lui dis, moi je veux bien faire un livre sur Tarare, y compris m'inspirer de ces photos qui sont quand même assez techniques et pas très bandantes, faut dire ce qu'il y a. Mais je te préviens, ça sera pas un documentaire, ça sera mon ressenti par rapport à la ville de Tarare. Une espèce de chronique à la fois sentimentale et autobiographique, voilà.
On va faire une petite pause musicale, Jean-Pierre, et puis on parlera un petit peu plus du livre après. Je rappelle que nous sommes sur RVR dans l'émission Bout de vie. Je rencontre aujourd'hui Françoise Rey qui vient nous parler de son livre Tarare, de la tarentule à la tarandouille, illustré par les photographies de Bernard Schreyer, venu ici même nous présenter dans le premier Bout de vie son polar Le Boiteux de la Croix-Rousse. Le livre de Françoise Rey nous entraîne dans Tarare, une maîtresse de pierre qui absorbe le mari d'une femme qui, à force d'être délaissée, se découvre un talent de romancière pour passer le temps. Alors Françoise, ce titre énigmatique, Tarare de la tarentule à la tarandouille, expliquez-nous.
Alors d'abord, au premier degré, il faut savoir, la tarentule c'est une araignée venimeuse, et j'ai trouvé l'expression, une très vieille expression qui remonte au XVIIe je crois, même peut-être avant, être mordu de la tarentule c'est être entiché de quelqu'un ou de quelque chose à un point frénétique, vraiment qui vous aveugle. Et c'était le cas de mon mari, il était mordu de la tarentule pour Tarare. C'est ce que je lui reproche, voilà, au début du livre du moins. Et la tarandouille, c'est une espèce de spécialité culinaire gourmande que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps, lors des fêtes du Beaujolais gourmand, du Beaujolais nouveau. C'est un mix entre andouille et macédoine, etc. Et si vous voulez, ça c'est le premier degré. Le deuxième degré, c'est pour expliquer que dans le livre, il y a un cheminement de l'aspect douloureux, vénéneux, venimeux, à l'aspect plutôt festif, joyeux. Voilà.
C'est ça, merci. Mmh. Très intéressant. Alors, comment vous résumeriez votre livre?
Je dirais, c'est une espèce de radioscopie de ma conjugalité.
Oui.
Un peu. Et c'est grâce à...
Mais pas seulement.
Pas seulement. Oui. Pas seulement. Tarare est là, non seulement en toile de fond, mais en révélatrice.
Oui.
Et puis maintenant, en souvenir, en fait.
C'est ça.
Voilà. En pèlerinage. Non pas obligatoire, j'y vais volontiers, mais pour moi, Pour toujours, Tarare est associée à l'image de mon mari, qui, il faut le dire, est mort depuis 8 ans déjà, maintenant.
D'accord.
Alors, effectivement, j'ai été très, très adultère, mais je suis restée avec mon mari. Parce qu'en fait, je l'aimais profondément, j'y étais très attachée, et avec une passion qui, comme toutes les passions, basculait parfois du côté de la haine, mais qui était aussi extrêmement, extrêmement pleine d'amour, d'un amour vivace. Et je l'ai accompagnée jusqu'au bout de sa vie, et Tarare, le livre Tarare en fait foi, il y a des passages qui sont tristes, qui sont douloureux. Il a traîné ses guêtres dans l'hôpital de Tarare quelques fois.
Que dites,
et voilà, il a fait des séjours. On allait s'y promener même à la toute fin de sa vie. Et je ne pourrais plus jamais me balader dans Tarare sans me revoir avec lui et sans le revoir.
Et d'ailleurs, à propos, puisqu'on parle de Tarare, de l'hôpital de Tarare, vous rendez un bel hommage aux employés de l'hôpital, enfin pour le bon accompagnement qu'il y a eu
lors
des séjours de votre mari.
C'était très humain. Oui.
Donc, c'est bien de le dire aussi. Alors, vous en avez parlé, une histoire de couple dans ce livre qui est complexe, hein, mais de cette complexité en émerge le ressort insoupçonné qui pousse à l'écriture de La Femme de Papier.
Oui.
C'est ça ?
Oui, hein, c'est ça.
Alors, un peu d'autobiographie là-dessous, avec la narratrice qui va publier un roman à succès.
Oui. Alors, le roman est paru dans les circonstances que je vous ai narrées tout à l'heure, c'est-à-dire, bon, j'ai été fouettée par ce défi qu'on m'a lancé, hein. C'est de la merde, ça ne marcherait jamais. Et puis, comment j'ai écrit ça ? Ben, c'est-à-dire que je passais quand même pas mon temps à gaudrioler, pendant que mon mari n'était pas là, à gaudrioler, à faire la folle, à droite, à gauche. J'avais de grandes heures de solitude que je comblais en écrivant. Et je prétends que c'est en écrivant toutes ces pages de La Femme de Papier que j'ai été la plus volage, en fait, la plus infidèle, plutôt qu'en ayant quelquefois des rendez-vous furtifs plus charnels. Et ça m'a permis de construire quelque chose dans mon imaginaire, et puis finalement, ça m'a servi de tremplin pour toute une création ultérieure.
Alors, ce qui est très intéressant dans la lecture de votre ouvrage et dans votre parcours, c'est que je me suis rendu compte, dans un domaine et un style différent, votre approche m'a fait penser à L'ouvrier de la nuit de Bernard Clavel. Où l'histoire, cet homme employé administratif qui s'ennuie dans sa vie et qui, la nuit venue, trouve refuge dans l'écriture. Oui. Et il va écrire son premier roman. Et là aussi, c'est un départ. Et je trouve que c'est un peu l'histoire de votre narratrice qui s'invente une autre vie en écrivant.
Oui. C'est ça. Oui, parce que souvent, on m'a demandé si La Femme de Papier, c'était un ramassis, une collection de souvenirs, de choses vécues, ou simplement des fantasmes. C'était ni l'un ni l'autre. C'était des fantasmes, certes, mais que je croyais débusquer chez l'autre, qui était juste flagorneur, qui était flatteur. C'était une entreprise servile de séduction. Mais en même temps, ça aiguisait ma plume,
bien
ça aiguisait mon imaginaire. Voilà.
Et d'ailleurs, je crois que cette émission n'a jamais aussi bien porté son nom, puisque Bout de Vie, finalement... vous résume bien dans ce livre et les gens qui vous ont lu, moi je ne peux que les encourager à vous découvrir plus intimement dans cet ouvrage. Ils découvriront peut-être la genèse aussi de vos travaux d'écriture. Alors pour revenir à Tarare, la ville et la cité scolaire sont un peu la maîtresse du mari de votre narratrice, non ?
Oui, tout à fait.
Vous l'avez déjà dit. Hein.
Oui. J'aurais préféré qu'il ait une vraie maîtresse de chair et d'os, parce que je pense qu'il s'en serait lassé plus vite.
Oui, alors bon, il faut dire qu'il a été quand même assez dur, hein, parce que et ce mari qui fait plancher sa femme, parce qu'il vous a fait écrire beaucoup de fois sur des textes, qui ensuite... Les produits, il les lit et il dit qu'il en est l'auteur pratiquement.
Oui, c'est ça.
Quel culot, franchement, j'ai pas voulu mettre d'autres mots derrière, mais il est culotté quand même.
J'étais son nègre, mais je le faisais volontiers pour lui rendre service et pour lui faire plaisir. Et parce que je mettais
parce que vous l'aimiez très fortement.
Oui, bien sûr, mais c'était une preuve d'amour, mais je mettais ma modeste compétence au service de ses besoins, quoi. Mais un jour, j'en ai eu assez et j'ai dit maintenant, je vais écrire quelque chose que je vais signer.
C'est ça. Il était prof de...
De français aussi.
Oui. Ah oui, c'est un con quand même.
Alors lui, il était polyvalent. Il savait faire tellement plus de choses que moi.
Très bien. Alors, donc, cette maîtresse de Pierre, Tarare, pour ne pas la nommer, la narratrice la déteste une partie du livre, pour finir par l'aimer en nous faisant découvrir, photo à l'appui, donc grâce aux photos de Bernard Schreyer, les coins cachés de la ville, de la mousseline, il faut quand même le dire.
Oui.
Décrivez-nous un petit peu ces points phares que vous avez soulevés dans votre livre.
Alors, Tara, c'est une petite ville. Ça n'est pas une ville ambitieuse, prétentieuse, mais c'est une ville charmante en ce sens que d'abord, j'ai parlé de l'âme. Moi, j'ai rencontré souvent des gens, que ce soit des jeunes, des femmes avec leur marmaille, etc. Ce sont toujours des gens très humains, très gentils, très ouverts. J'ai pu lier conversation des tas de fois. Ça, c'est une chose. Et puis, j'aime
ça. Quand vous dites ça, c'est par rapport au Beaujolais?
Oui, par rapport
Bois-Noir,
à d'autres villes.
Bah, qui est pas tout à fait la même.
Oui, il y a des endroits qui sont beaucoup plus froids.
D'accord.
Non, c'est facile.
Très intéressant.
Voilà. Et puis j'aime bien le vieux quartier quand on monte vers l'église. Jadis, moi qui suis fan de déco de Noël, on en parlera peut-être tout à l'heure. Il y avait une petite rue qui montait comme ça, je sais plus comment elle s'appelle. Et les gens décoraient leur perron, c'est fini là. Ces gens ont dû partir, déménager. Mais c'était un petit coin plein de charme, de naïveté que j'adorais. La crèche de l'église de Tarare, c'était quelque chose que j'allais toujours voir toutes les années. Les illuminations. Et puis, j'aime bien aussi, j'aime bien le marché du jeudi, du samedi. J'aime bien aller chez Emmaüs. J'aime bien me balader un petit peu comme ça. Il y avait à un moment donné, au-dessus du marché couvert, une espèce de grand restaurant à ciel ouvert. Enfin, un petit peu, c'était sympa comme tout. Voilà.
Non, je pense que c'est important de citer ces lieux qui, pour François, sont des lieux de mémoire et qui sont à découvrir ou à redécouvrir. Alors, vous avez parlé d'Emmaüs, est-ce que vous saviez justement que je crois que c'est la grand-mère de l'abbé Pierre était de Tarare?
Non, je ne le savais pas. Non.
Ouais. Donc voilà, il y a une histoire aussi autour de ça et je vous le dis quoi. Donc
c'est bien.
Voilà, est-ce ce vrai coup de foudre qui finit par arriver pour cette ville que vous décrivez comme lumineuse à la page 97? Donc, c'est un chapitre que vous nous lirez après, là. Justement, vous avez titré le coup de foudre. Vous est venu après, du coup, ce coup de foudre.
Oui, parce qu'un jour, je me suis rendu compte, à la faveur d'une promenade, que Tarare était une ville qui, pour le temps des fêtes, s'illuminait, devenait joyeuse, devenait puis s'animait. C'était joli à voir. Moi, je suis un peu cucu la praline, mais j'aime tout ce qui est tout ce qui est charmant, tout ce qui est brillant, comme ça. Voilà, c'était ça, le coup de foudre.
Ben, bien sûr, oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous lire le début du chapitre que je vous ai donné?
Le chapitre, voilà, qui s'intitule « Vrai coup de foudre », parce que là, on était sur le chemin de la rédemption petit à petit.
C'est ça,
là, voilà.
Donc on va terminer justement là-dessus.
Quand pour la première fois, peut-être d'ailleurs au sortir de l'église où Marité et moi venions de tomber sur cette crèche, je me suis rendu compte que Tarare s'illuminait conséquemment pour célébrer les fêtes qui approchaient, je me suis sentie définitivement conquise. J'accorde une telle importance aux lumières, à Noël, et bien sûr aux lumières de Noël, qu'il ne pouvait en être autrement. À partir de là, je t'entraînais souvent, au moment du crépuscule, vers la petite cité si longtemps boudée qu'à présent je bénissais. Nous déambulions à travers le centre, ce qui représente un tour assez rapide. Nous prenions un thé ou un café au centre, si possible, attablé contre la vitre qui fait face à la place du marché et en même temps offre une perspective sur la rue piétonne Anna Bibert. Et j'attendais avec ferveur l'instant merveilleux qui transformait à mes yeux naïfs la bourgade languide en féerie. Le dôme lumineux, tout spécialement au-dessus de la fontaine de la place, me fascinait. Avec ses mouvements de rayons changeants, ses faisceaux qui couraient d'un arc à l'autre, clignotaient, s'allumaient ici, à côté, plus loin, jusqu'à avoir parcouru le tour complet du chapiteau.
Très bien, merci. Alors, personnellement, vous m'avez donné envie d'aller marcher dans la ville et de boire un verre au bar de la Madeleine ou au café du centre, d'aller aussi faire le marché, donc vous venez de le dire, le jeudi ou le samedi matin, d'aller aussi à la prochaine fête de la mousseline. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de programmé.
Je pense qu'elle est programmée. Oui, elle a été différée.
C'est ça, oui. Donc, bon, à suivre alors. Alors, bref, mettre mes pas dans l'histoire que vous avez racontée, sans masque, avec lucidité et talent. Et voilà, donc j'invite nos auditeurs à découvrir ce livre, qui est bien plus qu'une balade, on va dire, dans une ville. Mais voilà, une promenade aussi, on peut faut le dire, sentimentale, à travers les complexités de l'âme humaine. Pour terminer, donc, on rappelle le titre « Tarare de la tarentule à la tarandouille » de Françoise Rey. Merci de votre participation.
Merci de votre intérêt.
Merci. Et le prochain bout de vie sera en avril. Affaire criminelle en Beaujolais, au siècle des Lumières, de David Besnay, que nous avons déjà reçu ici en 2019. Voilà.